enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons ensemble dans la parole de Dieu à la Genèse, le livre des commencements. Nous regardons à Genèse, chapitre 39, pour la suite de notre série sur le rêve de Dieu. Nous sommes ici, Genèse chapitre 39, nous suivons la vie de Joseph afin de nous emparer ensemble du rêve de Dieu pour chacune de nos vies. Nous sommes ici ce matin parce que nous croyons que c'est dans une relation avec Dieu que nous trouvons la clé qui va déverrouiller la porte qui ouvre de nouveaux horizons et la possibilité pour chaque être humain de s'emparer de sa destinée, de s'emparer de choses merveilleuses que Dieu a de préparer pour nous, que absolument tout est en lui, lorsque nous parlons du rêve de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 16, la version Le Message, il y a cette pensée importante. Car tout, absolument tout, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible, voulez-vous dire à voix haute, visible et invisible? Ce qui est visible et invisible, tout, a trouvé son origine en lui et trouve son épanouissement et sa raison d'être en lui. Le rêve que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est en lui, dans notre communion avec lui, que nous allons le trouver. Et l'apôtre nous parle aux Colossiens, puis dit, le défi de chaque croyant, le défi de la foi, c'est que tout ce qui est visible et invisible se trouve en lui. Et le défi de la foi, c'est que très souvent, les difficultés sont très visibles, et les destinées sont invisibles. Nous avons tous vécu ces moments où les difficultés sont bien visibles et les destinées nous semblent invisibles. Et c'est alors que la foi, qui est l'évidence des choses que l'on ne voit pas, l'espérance et la manifestation des choses que nous avons, à laquelle nous nous sommes accrochés, que nous avons espéré, c'est alors que la foi nous permet de dire, Seigneur, en ce moment, il y a des difficultés qui sont visibles, mais je mets ma confiance dans tes destinées qui, elles, sont invisibles. Est-ce qu'il y a un amen ce matin? Le Seigneur dit, c'est moi seul qui peux déterminer quelle va être ta destinée et quelle va être l'étendue, les limites de ta destinée. Dans Acte 17, il y a ce verset magnifique, Acte 17, 26, qui dit, « Il a fait que toutes les nations humaines habitent sur la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux. » Que les temps de Dieu, les timings de Dieu dans nos vies, que les échéanciers de Dieu, que les accomplissements, les temps parfaits de Dieu sont déterminés dans ma vie. Qu'il fait toutes choses, il rend toutes choses parfaites en son temps. Il accomplit toutes choses parfaitement en son temps à lui. Il a déterminé les temps fixés pour eux, les bornes. Et ça m'a tellement touché. C'est Dieu qui a déterminé les bornes, les limites. Ou les barrières, le mot grec parle les frontières. C'est Dieu lui-même qui a déterminé les limites, les barrières de nos demeures. C'est lui qui a déterminé ce que nous accomplirons, ce qu'ils vont accomplir, où ils vont accomplir le rêve de Dieu. Afin que les hommes cherchent Dieu pour le trouver comme en tâtonnant parfois. Car il n'est pas loin, il n'est jamais loin de chacun d'entre nous. Quel portrait proche de nous, cette pensée de Dieu qui dit « c'est moi » et une pensée qui a besoin de s'ancrer dans vos cœurs. Vous allez manquer, vous allez limiter Dieu grandement si vous laissez qui que ce soit d'autre que Dieu déterminer vos limites. Les frères de Joseph ont essayé de dire « voici ce que va être ta vie ». Les circonstances, les épreuves sont passées, la méchanceté qui l'avait entouré, le mis dans un puits, le mis sur une charrette d'esclavage. Et les frères ont dit « ça va être ça ta vie, ça va être ça ta destinée ». Mais il y a quelque chose qui monte en nous qui dit « ce n'est pas les hommes, c'est pas mes échecs, c'est pas les circonstances qui vont déterminer ce que vont être mes limites. C'est Dieu lui-même qui va étendre mes limites. » Laissez personne d'autre que Dieu déterminer ce que va être votre nom, ce que va être votre vie. Ne laissez pas l'incrédulité, ne laissez pas l'impossible, ne laissez pas l'invisible, ne laissez pas les délais, ne laissez pas ce qui a été prononcé sur vous déterminer les limites. Que quelqu'un ce matin se réjouisse dans le fait que les hommes ont pu mettre des limites comme ça autour de moi, mais Dieu est capable de me sortir du puits. Dieu est capable d'établir ses limites dans ma vie. Quelqu'un devrait dire amen. Je le dirais de cette façon. Nous pouvons être le produit de notre passé, mais nous n'avons pas à être prisonniers de notre passé. Nous sommes tous le produit de notre passé. Nous sommes tous affectés, influencés, parfois attachés, parfois diminués, parfois ralentis par un passé que nous avons vécu. Nous avons tous des influences, hérédité, influences humaines, physiques, psychologiques, spirituelles. Nous avons tous, nous avons jusqu'à un certain point cette réalisation que nous sommes limités parfois par, nous sommes le produit de notre passé, mais nous n'avons pas à être prisonniers de notre passé. La manière la plus simple que je peux le dire, c'est que votre passé n'a aucun avenir. J'aimerais dire à chaque personne dans ce lieu ce matin, si vous êtes pour applaudir, applaudissez comme il faut, on va applaudir ensemble tout le monde. C'est un genre de... Ça, c'est le plus dur pour les prédicateurs, c'est les genres d'applaudissements moitié-moitié. Moi, t'en donner un petit peu, mais donne-moi en plus, on va voir plus tard qu'est-ce que je vais faire. Votre passé, vous pouvez être un produit de votre passé, mais vous pouvez jamais, ne permettez jamais de demeurer prisonnier de votre passé. C'est Dieu qui va déterminer nos frontières, qui va élargir nos frontières, qui va déterminer ce que votre vie. C'est pas ses frères, c'est pas son père, c'est pas ses circonstances qui déterminaient ce que Joseph était pour devenir. Et je suis toujours touché de voir cette réalisation-là, non seulement s'accomplir dans la vie de Joseph, mais s'accomplir dans la vie de centaines d'entre vous. Parce que cette semaine, je passais dans le bureau de mon assistante, puis il y avait une affiche, il y avait un poster qui était là d'une conférence qui s'est donnée, d'autres conférences qui vont se donner dans des universités, qui va prendre place dans des églises, des universités, des centres de conférences qui sont donnés par Monique Lépine. Monique Lépine, qui est ceux d'entre vous qui sont nouveaux à l'Église, qui est ici avec nous à l'Église Nouvelle-Vie, elle œuvre auprès des femmes, elle aide des femmes, elle conseille des femmes, et de plus en plus, Dieu lui ouvre des portes pour donner des conférences et partager son témoignage. Et Monique est la mère de Marc Lépine, qui était le tueur de la Polytechnique. Et c'est une femme qui a vécu ce drame-là, qui l'a plongé dans une dépression sans nom et qui semblait sans limite et sans fin. Et par la suite, après le drame d'avoir vu son fils tuer ses 14 jeunes filles et s'enlever la vie, et la honte et tout ce qui vient avec, Monique, en plus, a vécu le double drame de voir son autre fille succomber, elle aussi, et s'enlever la vie à travers une overdose de drogue. Et cette femme, n'importe qui regarderait à la vie de cette dame, à ce moment-là, si tu prends une photo, au moment où ses deux enfants sont enlevés la vie, au moment où elle est déchirée, puis elle témoigne elle-même qu'elle était au bord, elle avait obsédée par des pensées de vouloir mourir, de se suicider elle-même. Même, il n'y avait pas de... N'importe qui regarderait à cette vie-là et tu vois Joseph dans le fond d'un puits. Tu dis, il n'y a pas rien. Il n'y a personne d'autre qui peut sortir de là. Ça va être les limites. Ça va être les frontières. Ça va être les barrières de la vie de cette femme-là. Mais Dieu dit, je regarde à la même femme et non seulement est-ce que je vais la sortir, mais un jour, elle va être sur le campus des universités. Il y a une affiche qui est là, une conférence. Elle va sur le campus, la faculté de sciences religieuses de l'Université Laval qui l'invite à venir donner une conférence. Et j'aimerais vous dire, ne laissez aucune tragédie, même les plus inexprimables et incompréhensibles. Ne laissez rien ni personne déterminer quelles vont être les frontières de vos vies. Dieu est capable d'élargir les frontières de vos vies. Alléluia. Il y a quelques mois, Monique a donné une interview à Harold Gagné de TVA. Et ça faisait depuis les débuts, je pense, c'est 17 ans qu'elle n'avait pas parlé. Et elle a choisi de donner cette interview à Harold Gagné. C'est un journaliste qu'on connaît et que nous respectons. On respecte son travail, son intégrité. Et elle a donné cette interview qui est devenue une des émissions les plus regardées de l'année 2006. Ça a été regardé par des millions de personnes dans la province de Québec. Et on en a un extrait qu'on va regarder ce matin alors que Monique partage. C'est assez saisissant de voir cette chrétienne et nous sommes fiers de la façon dont Dieu l'a soutenue. Et maintenant, ça ouvre des portes partout. Il y a même des invitations d'Europe qui viennent. Il y a tellement de gens qui souffrent et qui ont besoin de quelqu'un qui a traversé la vallée de la souffrance et qui en sort avec un message. Et alors qu'on vous a regardé ces quelques minutes de témoignage ce matin, ouvrez vos cœurs. On va simplement, je vais simplement regarder ce témoignage avec vous afin que vous puissiez, en début de message, ouvrir vos cœurs et dire, Seigneur, c'est personne d'autre que toi qui va mettre les limites dans ma vie. C'est personne d'autre. Je ne laisserai rien, ni personne, ni aucun événement ou les années déterminer les limites. C'est pas les situations qui vont dire ce que mon couple est en ce moment, il peut pas être autre chose que ça. Ce que mon mariage est, ce que ma vie est, ce que ma vie spirituelle est, ce que mon état émotif est actuellement, n'est pas la limite de ma vie. C'est toi, Dieu, qui peut étendre les limites de ma vie. Regardez le témoignage de Monique, ouvrez vos cœurs et laissez le Dieu sans limite faire son œuvre en vous.
La nuit est tombée sur Montréal, quel calme apaisant, particulièrement après ces événements troublants qu'on a vécu la semaine dernière au collège Dawson. On a tous été touchés. Une maman l'a peut-être été plus que nous tous. Monique Lépine s'en souvient trop bien. Le 6 décembre 1989, son fils Marc entrait à Polytechnique et abattait 14 jeunes femmes. C'est un témoignage bouleversant, troublant, qu'elle livre à mon collègue Harold Gagné. C'est la première fois en 17 ans qu'elle accepte d'en parler.
Le 6 décembre 1989,
oui.
Marc Lépine, votre fils a 25 ans, il entre à la Polytechnique avec des armes, abat 14 filles.
Oui.
Comment est-ce qu'on vous a appris ce drame-là? Vous étiez où?
Cette journée-là, j'étais en formation, donc je ne l'ai pas su la journée même. Mais je me rappelle que c'était un mercredi soir, parce que j'étais allée à une réunion de prière ce soir-là, et j'avais demandé de prier pour la mère de ce jeune homme-là, sans savoir que c'était moi. Le lendemain soir, quand je suis revenue de ma formation, ils ont finalement fait le lien que j'étais la mère. Et c'est là où les policiers sont venus me chercher. J'étais passée au bureau vers 5 heures pour aller faire des copies. Et puis les policiers sont venus me chercher et m'amener à la criminelle.
Comment vous avez réagi?
Je pense que j'étais sous l'effet de choc parce que jamais, jamais, jamais je ne me serais imaginé que mon fils puisse faire un tel geste, un geste aussi dément que ça. C'est un geste horrible que je condamne, que j'ai condamné quand mon fils l'a fait. C'est pas une façon de régler des problèmes en société. C'est des actes, on dit que c'est isolé, mais je me demande jusqu'à quel point c'est isolé. Quand on voit tous les marginaux, quand on voit toute la drogue qui circule, quand on voit tous ces actes de terrorisme qui sont de plus en plus présents, fréquents dans notre monde, j'ai un peu de crainte face à l'avenir.
Et en plus, votre fils s'est enlevé la vie.
Mon fils s'est enlevé la vie, oui.
On dit que pour une mère, pour un père, la chose la plus tragique au monde, c'est de perdre son enfant. Mais perdre son enfant dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça fait intérieurement à une mère?
Je pense que au moment où ça s'est passé, j'étais encore en état de choc et je ne pouvais pas nécessairement réfléchir autant. J'avais encore une fille et pour moi, je pensais à préserver ma fille.
Elle avait quel âge à cette époque?
Elle avait à peu près 22 ans, mais elle avait aussi ses propres difficultés. Et puis, je voulais que ma fille s'en sorte. Et puis, pendant cette période-là, j'ai mis beaucoup d'attention sur ma fille. Je ne pouvais pas vivre mon deuil parce que mon deuil était public. Alors, je n'étais pas capable de vivre mon deuil parce qu'on me le rappelait continuellement à la télévision. Et j'étais pas capable de le vivre. Je l'ai vécu après la mort de ma fille.
Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, en 1989? Parce que c'est la première entrevue que vous accordez en 17
ans. Oui, en 17 ans.
Ça a été très, très long avant que vous parliez. Qu'est-ce que vous avez fait en 89? Vous êtes allé vous réfugier à un endroit? Vous vous êtes caché?
Bien, c'est-à-dire que j'ai été pendant le premier mois, peut-être, chez des gens à qui j'avais confiance. Mais par la suite, j'avais ma fille, j'avais mon loyer à payer. J'étais mère monoparentale, donc je devais payer mon loyer. Et pour moi, je suis retournée travailler. Je travaillais dans le monde de la santé, un milieu de compassion. Les gens m'ont accueillie avec joie quand je suis retournée au travail. Et j'ai quand même pu continuer ma carrière professionnelle. Mais à ce moment-là, toute mon énergie passait pour mes 7 heures ou 8 heures de travail. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que je me ressourçais en Dieu parce que pour moi, ma foi était importante. J'étais croyante, je le suis toujours.
C'est ce qui vous a sauvé.
Et pour moi, c'est en Dieu que je me réfugiais.
Avez-vous voulu mourir à un moment donné? Avez-vous pensé à mourir?
Oui, j'ai pensé à mourir. Mourir de chagrin. Vous savez, on peut mourir de chagrin. Moi, quand ma fille est décédée, là, j'étais en myrte. J'étais comme un morceau de un vase brisé, vraiment, en mille miettes. Et j'apprenais à vivre au jour le jour, et 24 heures à la fois, le matin, je me ressourçais dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir l'essentiel pour vivre ma journée. À un moment donné, j'étais tellement épuisée, fatiguée, je me sentais mourir physiquement. Et ma tête, j'arrivais plus à la tenir droite, et j'avais une compagne qui était à côté de moi, je me suis appuyée sur elle. J'ai dit, laisse-moi tomber. Si je tombe par terre, laisse-moi là. Ne me ramassez pas. Je ne veux pas de réanimation cardio-respiratoire. Et à ce moment-là, il s'est passé quand même un événement assez spécial. Mon cœur s'est mis à battre d'une façon démesurée. Et c'est comme si j'entendais Dieu me dire, mais qui fait battre ton cœur? Qui te donne la vie? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. J'avais le choix de mourir ou le choix de vivre. Et c'était en 2001, ça. Et j'ai décidé à ce moment-là, oui, Seigneur, je vais vivre pour toi, mais si je vis, je veux que ma vie soit utile à d'autres femmes qui sont brisées par les événements de la vie. Et depuis ce temps-là, toutes les portes s'ouvrent pour que je puisse aider d'autres femmes.
Madame Lépine, avez-vous reparlé aux membres, aux familles des victimes de Polytechnique depuis que ça s'est produit?
Non, je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu de contact avec les familles.
Est-ce que vous aimeriez ça le faire? Allez-vous le faire un jour?
Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je leur demande pardon au nom de mon fils, que j'ai toujours prié pour elle. Si vraiment les parents des victimes voulaient me rencontrer, je pense qu'à ce stade-ci de ma vie, je pourrais être en mesure de faire face à cette situation.
Et qu'est-ce que vous dites aux gens, aux familles des victimes de Dawson?
Aux victimes de Dawson, chacun a son moyen pour ventiler. Moi, mon moyen à moi, c'était de me confier en Dieu, de prier. Dans la souffrance, il y a des souffrances qui sont tellement dures que c'est difficile à exprimer même ce qu'on ressent. Pour moi, ma souffrance, c'est avec mon Dieu que je l'ai exprimée. Pour ceux qui veulent voir des gens, c'est pas mauvais de voir des gens, de parler de ces événements-là, mais je pense qu'il faut le faire avec des gens en qui on a confiance, des gens qui vont nous donner des messages de vie, des messages d'espoir, des gens qui vont nous amener à dépasser l'événement pour pouvoir continuer à vivre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toujours une seconde chance. Quelle que soit l'épreuve que l'on vit dans notre existence, on a droit à une seconde chance.
Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui étend nos limites? Allez, applaudissez la grâce de Dieu, le rêve de Dieu. À chaque semaine, nous marchons aux côtés de Joseph et nous faisons des pas avec lui dans la découverte et le développement du rêve de Dieu dans chacune de nos vies. Nous avons vu ensemble la puissance et les possibilités du rêve de Dieu, la protection, comment protéger le rêve de Dieu. Et commençant ce matin, dans les prochaines semaines, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble la préparation pour la possession du rêve de Dieu. Et pour ce faire, on va regarder à un psaume. Il y a un psaume dans la parole de Dieu qui nous donne un regard de révélation sur ce qui se passait dans la vie de Joseph. Un psaume qui explique ce qui a pris place en lui alors qu'il traversait ses épreuves. Un psaume qui nous parle de la dimension de préparation que Dieu fait en nous. Que parfois, lorsque nous traversons une épreuve, un désert, un temps dans le puits, un temps dans la prison, puis il y a des choses qui nous arrivent qui nous semblent inutiles, qui nous semblent incompréhensibles, qui nous semblent injustes et qui semblent que je suis loin du rêve de Dieu, puis ça n'a rien à voir avec ce que je suis appelé à faire, qu'alors que je traverse cette période-là, Dieu est en train de faire une œuvre en moi. Dieu est en train de préparer son homme, sa femme. Il est en train de préparer son serviteur, sa servante, son fils, sa fille. Dieu est en train de préparer son enfant pour le rêve qu'il a pour lui. Dieu est en train d'enlever des choses de nos vies. Il est en train de fortifier des choses en nous. Il est en train de nous transformer alors qu'on ne le réalise même pas. Il est là avec nous et il fait une œuvre. Et le psaume 105 nous donne un regard extraordinaire sur ce qui prenait place dans Joseph. Psaume 105, verset 17 à 21 dit... On envoya, c'est ce qu'on a lu dans les dernières semaines, on envoya devant eux un homme, Joseph, il fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des fers, mais le fer entra dans son âme. En anglais, ils disent « iron entered his soul », il y avait de l'acier qui s'est formé dans son âme, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et la parole de l'Éternel le testait, la parole de l'Éternel le mettait à l'épreuve. Le roi donna l'ordre de le relâcher, le maître des peuples fit délivrer et lui donna la place du chef sur toute sa maison et de maître sur tout ce qu'il possédait. Il y a un regard ici tellement important que si vous pouvez le saisir, ça va faire une différence dans votre vie. Ça va faire une différence en vous si vous réalisez, si vous acceptez la préparation de Dieu, ça va vous permettre d'acquérir une paix spéciale, une paix particulière, une compréhension que... Puis l'image est tellement forte... qu'alors qu'il y avait des choses extérieures qui se passaient à Joseph, il y avait des choses beaucoup plus importantes, spirituelles et éternelles qui prenaient place en lui. L'expression dit qu'ils lui ont littéralement, le texte dit, utilise l'expression qu'on lui a littéralement mis des chaînes aux pieds. Puis qu'alors qu'on a mis des fers à ses pieds, alors que c'était extérieurement des fers qui étaient supposés le tenir captif, avorter le rêve, signifiant qu'il était fini, il était un esclave, qu'il y avait autre chose qui prenait place. Qu'alors qu'il y avait des fers à ses pieds extérieurement, Dieu était en train de couler de l'acier trempé dans son cœur. Que Dieu est en train de faire de lui un homme différent, de mettre une solidité en lui, que l'épreuve est en train de produire quelque chose en lui. Lorsqu'il était dans cette épreuve-là et qu'il avait la promesse de l'Éternel, et que tout autour criait à tue-tête, que la promesse de Dieu pourra jamais s'accomplir, la parole de l'Éternel le testait. La parole de l'Éternel le mettait à l'épreuve. La parole de l'Éternel le faisait passer par le feu. Et alors qu'il traversait ce feu à chaque jour, avec ses doutes et ses questionnements, il y a quelque chose qui était en train de prendre place. Il y a un acier trempé. Il y a une force qui était en train de prendre place en lui, qui lui était nécessaire pour devenir l'homme qui accomplirait le rêve de Dieu. Je vous dirai de cette façon, je vous le partagerai de cette façon. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup qui sont ici après depuis quelques années, que nous avons traversé la Bible, et c'est bien, nous l'avons lu de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons traversé la Bible. Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'au-delà que toi qui as une fois traversé la Bible, Dieu veut que la Bible te traverse. Dieu veut que ça soit autre chose que des promesses que tu as lues et des choses que tu as dites. Que ça devienne la conviction de ton âme. Ça devienne que tant tout le reste crie que ça n'arrivera pas, il y a quelque chose qui monte en toi et qui dit que tout le reste soit menteur. Ma confiance va être en mon Dieu. Il y avait un acier dans son âme. Dieu est en train de faire de lui un homme de foi. Dieu est en train de mettre en lui un acier trempé. Eux mettaient des fers à ses pieds. Mais ça va partir éventuellement. Puis il va rester une foi. Une confiance, une préparation pour le rêve de Dieu. Il y a une utopie dangereuse dans notre monde chrétien moderne. Une utopie, une illusion de beaucoup de rêveurs modernes. Beaucoup de gens qui ont des paroles prophétiques, qui sont de Dieu, mais beaucoup de gens qui cherchent dans le prophétique, et cherchent dans toutes sortes de choses et parlent beaucoup de rêves et la vision de grandes choses qui vont arriver, mais il leur manque un élément essentiel qui est important. Il y a beaucoup de gens qui désirent, je dirais de cette façon-là, ils désirent le rêve, mais sans résistance. Ils veulent que ça, le rêve va se réaliser, ça va arriver un jour. Alors que nous dans tous les domaines de la vie spirituelle, on réalise que c'est à travers l'épreuve, à travers la résistance que nos forces se développent. Que le rêve est en train de prendre place. Des gens qui veulent la puissance sans persévérance. Des gens qui veulent les miracles, mais ils veulent pas mourir. Dites à la personne près de vous, Dieu veut te tuer. Dites à la personne près de vous. Non. Jésus a dit, lorsque la semence, à moins que la semence tombe au sol et qu'elle meure, elle pourra pas porter du fruit. Dieu veut votre vie abondante. Mais pour que le rêve de Dieu s'accomplisse, il y a des choses qu'il faut qu'il meure en nous. Il y a des choses qu'il faut qu'il meure. Et tout le monde veut le miraculeux, mais personne ne veut mourir. Il y a ces rêveurs modernes qui veulent les délivrances sans le désert. Je veux vivre les délivrances, l'onction de délivrance, mais je ne veux pas avoir cette transformation dans le désert. On regarde aux personnages bibliques et on veut être des pères de foi qui sont des sources de bénédiction comme Abraham. On veut être, nous voulons être dans notre génération, à nous, des David selon le cœur de Dieu. Nous voulons être des hommes comme Jean-Baptiste qui était, il n'y a pas de plus grand que lui dans le royaume. Nous voulons marcher comme Jésus lui-même avec ses signes et ses prodiges. Nous voulons être des hommes comme Paul remplis de révélations. Mais nous voulons l'onction de chacun de ces hommes-là. Mais il y a besoin d'avoir un rappel à nos cœurs que l'homme selon le cœur de Dieu est allé au désert, qu'Abraham est allé au désert, que Moïse est allé au désert, que Jean-Baptiste est allé au désert. Dites amen n'importe quand ça vous tente. Qu'il y a dans le désert l'œuvre de préparation pour la délivrance. Que c'est en sortant, c'est des hommes et des femmes qui ont été préparés dans le lieu secret lorsque personne ne le voyait, souvent dans l'épreuve et le feu, qui sortent avec de l'acier dans leurs âmes. Ils sortent de là, ils ont été épurés, ils ont été changés, ils ont été transformés. Puis il y a quelque chose de vrai, de puissant sur leur vie. Ils sortent du lieu secret avec de l'acier dans leurs âmes. Il y a plusieurs qui recherchent la promotion sans le processus. Je vais être haut dans les choses de Dieu. Je vais être prospère sans le processus. La hauteur sans l'humilité. L'élévation sans l'épuration ou l'onction sans les obstacles. Ils désirent en fait posséder le rêve sans avoir été préparé pour le rêve. Sans avoir été préparé pour le rêve. Et Dieu dit, je vais vous apprendre la puissance du rêve de Dieu. Je vais vous apprendre comment protéger le rêve de Dieu. Mais je veux vous apprendre à accepter, à accueillir, à épouser, à embrasser et à recevoir la préparation du rêve de Dieu. Et on va regarder ensemble dans notre texte, si vous voulez bien, dans le livre de la Genèse. On va commencer à lire, on va continuer les prochaines semaines. Et nous sommes dans Genèse chapitre 39. Et on prend le texte exactement où on l'a laissé la semaine dernière. Joseph vient de protéger le rêve de Dieu en refusant l'offre d'adultère qui lui était faite par la femme de Potiphar. Il a été dans le puits, il a été vendu comme esclave, il a été amené dans la maison de Potiphar. Et là, il a prospéré, il a servi Dieu dans cet endroit-là. Elle lui a fait toutes sortes d'offres de tentation de manière héroïque. Il a protégé le rêve de Dieu. Il dit, non, moi, je pêcherai pas contre Dieu. J'ai un appel sur ma vie. Et humainement, on dirait, ça, c'est le moment où il va être rempli de bénédictions. Là, ça va, les douches de bénédictions vont se répandre sur lui. Et on prend exactement le moment au verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main. S'est enfui, puis elle l'a pris, elle a grippé son vêtement, puis lui s'est enfui, puis le vêtement lui est resté dans la main. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main, qu'il s'était enfui dehors, la femme de Potiphar appela les gens de la maison, elle leur parla en ces termes, « Voyez, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Dis ta voix haute, méchante menteuse. Dis ça à quelqu'un. Parce qu'elle est méchante, puis menteuse. Elle est méchante, puis menteuse. Il n'y a rien comme la fureur d'une femme rejetée. Il y a un auteur anglais qui a dit ça, « The scorn of a woman ». Et puis cette femme-là se retrouvait dans sa dans sa colère qu'il a refusé, il a dit, essayez de me violer. Au viol, j'ai crié, essayez de me violer. Et là, elle s'assoit au verset 16, elle pose le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à temps que le maître revienne, jusqu'à temps que son mari revienne, elle est là à côté du vêtement. Et au verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bénédiction et il lui donna une faveur surnaturelle dans la prison. Dites à voix haute, dans la prison. J'aimerais vous proposer comment, vous enseigner, dévoiler comment on peut préparer le rêve de Dieu en nous. Comment on peut le préparer, on peut le voir se développer en nous. Comment le rêve de Dieu est non seulement protégé, mais comment il peut être préparer et vous proposer très personnellement que je prépare et vous préparez et je prépare le rêve de Dieu lorsque je poursuis passionnément la promesse de Dieu malgré la jalousie, le silence du ciel et les injustices. Puis la deuxième partie aujourd'hui, on va continuer dans les prochains messages. Je prépare le rêve de Dieu lorsque je me préoccupe des rêves des autres et que je participe à leurs accomplissements. Avant qu'on plonge dedans, dites à quelqu'un près de vous, Dieu te prépare quelque chose de beau. C'est ça la personne près de vous. Nous préparons le rêve de Dieu lorsque nous poursuivons passionnément la promesse de Dieu malgré la jalousie, le silence du ciel et les injustices. Joseph était mis dans cette situation-là à cause de la jalousie d'autres personnes, à cause de ses frères qui étaient jaloux de lui, à cause de cette jalousie maladive qui était en eux, qui les a amenés, ils étaient incapables de se réjouir pour lui, et bien loin de cela, incapables de même tolérer sa présence. Le prophétique sur sa vie, la promesse de Dieu sur sa vie, la bénédiction de Dieu sur sa vie leur était intolérable. Ils l'ont lancé dans un puits, l'ont enlevé en esclavage, ont feint sa mort, simplement pour se débarrasser de l'avoir. Et il était là, jeté dans cette prison par la jalousie et par l'injustice. Il y a une parole que je vais donner, je n'ai pas enseigné souvent sur ce sujet-là, mais dans la préparation des dernières semaines, j'ai vraiment cru, je crois que ça va être pour chacun d'entre nous à un moment ou à un autre, mais qu'il y a des personnes ce matin qui ont une dimension de parole de connaissance pour certains d'entre vous là-dedans. Qu'il y a des personnes qui sont ici qui ont besoin de réaliser que nous préparons le rêve de Dieu, parfois, dans des moments où nous sommes victimes d'injustice, victimes de propos méchants à notre égard, ou des gens parlant mal de nous simplement parce qu'ils sont jaloux. Que parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer la bénédiction de Dieu sur vous, qu'il y a quelque chose en vous qui les amène, eux, ne veulent pas faire ce que vous faites, ne veulent pas aller chercher ce que vous avez été chercher, ou bien ils sont simplement envieux, ils sont simplement jaloux, il y a quelque chose en eux. Puis il y a un verset que je méditais là-dessus, qui m'a beaucoup parlé, qui disait, la jalousie est dure, Cantique des Cantiques et le Proverbe 6 qui dit, la jalousie est dure comme le séjour des morts, il y a de la mort dans la jalousie. Ces flammes sont des flammes brûlantes. La jalousie remplit un homme de fureur. Il n'y a rien qui peut l'apaiser. Il n'accepte même pas quand tu multiplies les dons, les bontés, les grâces. Puis il y a des personnes ici que c'est une parole de libération pour vous. qu'alors que vous essayez de marcher au mieux de votre cœur de manière imparfaite, parce qu'on est tous imparfaits, mais vous essayez de marcher sincèrement d'une manière, tout ce que vous voulez faire, c'est bénir, tout ce que vous voulez faire, c'est aider, tout ce que vous voulez faire, c'est accomplir le rêve de Dieu. Il y a des flèches qui sont lancées vers vous. Il y a des gens que vous avez besoin de comprendre et de discerner. Il y a des gens qui sont consumés par un feu de jalousie, puis vous ne serez jamais capable d'être assez bon. Vous ne serez jamais capable d'en faire assez. Vous ne pouvez jamais dire, t'essayes, tu es rempli de grâce, tu essaies de bénir, tu te repens, tu demandes pardon, tu essaies de bénir, tu essaies d'aider, tu essaies d'aimer. Puis il semble qu'il y a toujours une réaction qui est négative. Il y a toujours quelque chose pour essayer de vous abaisser. Il y a une jalousie qui brûle dans leurs âmes. Ça a besoin d'être dit à certains d'entre vous, parce que la tentation est d'écraser, la tentation est de se recroqueviller sur nous-mêmes. Mais vous avez besoin de dire, je veux avoir un cœur pur, je veux pas être en combat avec qui que ce soit, je veux pas non plus dire que moi je suis au-delà de toute correction, personne ne peut me parler, pas du tout. Mais vous avez besoin dans votre cœur de ce cœur qui dit, quel que soit ce qui est le traitement qu'on m'a fait, je veux apprendre de cette situation, mais je veux aussi poursuivre la promesse de Dieu, même lorsque je traverse une période d'injustice ou une période de jalousie. Lorsque... Dans toutes les conversations au fil des années, les lettres, les conversations sur maintenant presque 20 ans, dans notre relation avec le pasteur David Wilkerson, à un moment donné, il m'a envoyé une lettre qui m'a paru bien, bien étrange. C'était dans les 3 jours qui ont suivi lorsqu'il est venu faire la dédicace. Il est venu faire la dédicace de notre église au début. Il est venu faire la dédicace ici de l'église. Et puis, il m'a envoyé cette lettre que j'ai toujours gardée. Et je lui en ai parlé par la suite après, et il m'a expliqué sa pensée et tout ça. Et c'était vraiment une lettre que juste vous partager. Et c'est encore une fois, je crois que pour certaines personnes, c'est important que vous l'entendiez, que ça va vous... Il y a une parole de libération là-dedans pour vous. Il m'avait écrit, il m'avait dit, c'était 3 jours après la dédicace, et puis il était venu prêcher ici, puis on a été bénis de le voir s'agenouiller, puis prier pour nous et consacrer cette œuvre avec nous à l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu. Puis il avait écrit, cher Claude, c'est une joie d'avoir été là pour votre dédicace. J'ai été béni par la façon dont tout se fait à la gloire de Dieu. J'ai été touché par la passion spirituelle et la soif de Dieu des leaders et du peuple. Ne perdez jamais cela. Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Je te le partage comme un père dans la foi. Vous allez maintenant entrer dans une saison où la jalousie va être une de vos pires sources de douleur. Des paroles de critique et de mépris vont vous percer le cœur. Elles seront enrobées d'un langage chrétien et proviendront de leaders chrétiens, mais elles seront enracinées dans une jalousie dévorante, maladive. Il faut que tu t'habitues à cela. Ce que Dieu vous appelle à accomplir est unique au Canada. Tant que vous êtes parmi les autres, ils vous toléreront. Mais vous allez maintenant entrer dans une saison de croissance jamais vue et des multitudes vont être bénies, encouragées, motivées et provoquées, eux, dans leur cœur, à croire Dieu pour leur percée, mais d'autres deviendront consumés par une jalousie qui les aveuglera. Continue, ne réponds pas, ne te permets pas de devenir amer. Garde un esprit doux, a sweet spirit, mais ne laissez personne vous freiner. Marchez avec humilité en gardant vos yeux sur Dieu. Il y a quelques années, j'étais avec... Il y a 2 ans, j'étais avec Chantal au Dream Center, et les enfants, mes enfants, David Samuel et Elisabeth, on était au Dream Center à Los Angeles. J'ai eu le privilège d'aller prêcher là-bas. Pour moi, c'est un des plus beaux sites chrétiens sur la terre. Tu arrives là-bas, puis il y a un jeudi soir, une église avec des milliers et milliers de personnes qui sont là, des gens de rue, des autobus, 50, 60 autobus qui vont chercher les gens de la rue, les amènent à l'église. Hier, on a vu des centres pour sidatiques, des centres pour jeunes filles battues, des centres pour gens malades. On était debout à côté d'une unité mobile exactement comme celle-là. Chantal, on l'a embarqué dedans, on l'a visité. C'était des cliniques mobiles. Ils en ont plusieurs où ils vont dans les quartiers les plus pauvres. Et puis, il y a tout là-dedans. Ils peuvent faire des petites opérations là-dedans. Ils peuvent faire. C'est comme une clinique sur des roues. Ça vaut énormément d'argent. Ils ont des donations pour le faire. Puis, ils ont des médecins qui viennent, des médecins chrétiens, qui donnent du bénévolat, qui viennent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ils offrent jour et nuit des soins gratuits médicaux partout. Et c'est, on était debout, je m'en souviens, on était debout à côté de ce camion-là. Moi, j'étais en morceaux. Mon épouse est là, vous dirait. Moi, j'étais en larmes, juste de tout voir ça. Là. Oh, wow! C'était tellement beau. Là. On rentre dans une pièce, il y a à peu près 100 gars qui sont là, tous des gars qui sont délivrés de la toxicomanie, ils prient pour nous. T'en vas dans une autre pièce, toutes des jeunes filles qui étaient prises dans la pornographie et qui sont sorties. Le gouvernement et la police les envoient au Dream Center pour être restaurées. 14, 15, 16 ans, une lignée, un couloir de jeunes filles qui sont là et sont dans un programme pour s'en sortir. Moi, j'étais à couper en petits morceaux. J'étais là en larmes à côté du camion. Là, ça, c'était le top. Une clinique mobile qui va partout dans le quartier. Puis j'étais juste là, tu sais, j'avais besoin moi-même de prendre ma pression. Puis moi, piqueux de quelque chose. T'es debout à côté du camion, j'étais juste touché. Puis à un moment donné, je dis à Tommy, je dis, les gens, là, les pasteurs, les leaders, ils doivent-tu être fiers de vous autres? Doivent-tu être fiers de ce que vous faites? Ben, c'est tellement super. C'est un homme, lui, hyper positif, toujours là, tu sais. Puis pendant une seconde, un ombre sur son visage, puis il s'est ressaisi tout de suite. Il dit, oh non, non. Il dit, they never show up. Ils viennent même pas voir ce qu'on fait. Puis il dit, tant qu'ils viennent, il dit, they can't wait to leave. Ils ont tellement hâte de s'en aller. Ils sont ici, puis tu vois qu'ils ne sont pas capables de se réjouir. Puis il a dit, c'est moi qui vais rester avec moi. Il dit, we can never do enough to make them happy. It's like we don't do anything right. C'est comme si on ne peut jamais rien faire de bien. Il y a toujours une critique à apporter. Il y a toujours. Je veux dire ceci. Prenez pas le mauvais message. Dites pas, ben moi, c'est parce que tout le monde est jaloux de moi. C'est pour ça, parlez-moi pas personne, corrigez-moi pas personne d'espèce de gang de jaloux. Dites à la personne à côté de vous, comprends le bon message. Dites ça à la personne près de vous. C'est pas ça le point. Nous sommes sous correction. Nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons besoin. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. Vous avez besoin de marcher avec humilité, garder un esprit qui est sweet, qui est doux, qui pardonne. Vous n'êtes pas en combat avec personne. On a plein de choses à changer. Mais je veux quand même dire ceci. Ne laissez pas l'injustice. Ne laissez pas la critique. Ne laissez pas des choses qui sont injustes, qui sont dites contre vous, à vous empêcher de continuer à poursuivre la promesse et la parole de Dieu. C'est pas les frères qui pouvaient déterminer ce que Joseph était pour devenir. C'est Dieu qui va déterminer ce que Joseph était pour devenir. Je prépare le rêve de Dieu lorsque je le poursuis passionnément sa promesse, lorsque de la jalousie, puis lorsque le ciel est silencieux, puis que je vis une injustice. Le maître de Joseph le fit mettre en prison. Joseph resta là en prison. Potiphar, le commandant des gardiens, le chef des bourreaux, avait le pouvoir de vie et de mort sur lui. Le texte nous dit dans 39.1 qu'il était le chef des bourreaux, le chef de la garnison la plus sévère. Tous les historiens s'entendent que Potiphar était un homme qui avait pouvoir de vie de mort à tous les jours. Il envoyait des gens à mort, il mettait des gens à mort. Et il y a plein de commentateurs bibliques qui sont d'accord, c'est presque unanime, pour dire qu'il envoyait des gens mourir pour 100 fois moins que ce que Joseph avait fait, que dans temps normal, Potiphar aurait dû mettre Joseph à mort. Puis plein de commentateurs sont d'accord pour dire, et des historiens pour dire, que la raison pour laquelle il l'a pas mis à mort, c'est qu'il connaissait sa femme. C'est qu'il le savait innocent, au fond. Potiphar avait le pouvoir de... cet homme-là avait le pouvoir de vie de mort à tous les jours. Il rentre chez eux, je t'ai pris et je t'ai donné toute ma maison, puis tu as vraiment essayé de violer ma femme, Joseph serait disparu de la terre. Au lieu de ça, il ne touche pas, il n'est pas battu, il n'est pas fouetté, il n'y a pas rien. Il est pris, puis il est amené dans une prison, dans la cour du roi. Ce qui, en passant, était un pas de plus, se rapprochant de l'accomplissement du rêve de Dieu pour lui. Parce que lui va devenir dans la cour du roi, il va rencontrer les gens de la cour du roi et qui vont l'amener à l'endroit où Dieu veut qu'il accomplisse le rêve de Dieu. Vous devriez dire amen. Mais il y a une injustice qui devait dévorer Joseph. Ça devait dévorer son âme, ça devait le ronger de dire, j'ai rien fait pour être ici, puis je me suis gardé peu, puis regarde qu'est-ce qu'ils disent de moi, puis je me suis gardé peu, puis regarde qu'est-ce qu'elle dit, puis elle répand des mentries sur moi. Oh, regarde, c'est pas vrai. Tu entends son humanité lorsqu'il dit, c'est tellement injuste qu'il soit là. Un peu plus tard, tu vois, entends son humanité un peu plus tard parce qu'il va avoir deux gars qui passent par la prison puis il va les aider à s'en sortir. Puis alors que les gars sont juste sur le bord de la porte de la liberté, Joseph leur prend le bras puis leur dit, hey, oubliez-moi pas, OK? 44, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Parle en faveur de moi, verset 15. Moi, là, je suis ici même en prison, mais j'ai rien fait pour être ici. Est-ce que vous entendez son cœur? C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. Les gars sont sur le bord de la liberté, sur le bord de la sortie, puis ils prennent par le bord, disent, hey, avant de t'en aller, là, souviens-toi de moi, oublie-moi pas ici, j'ai rien fait de mal. Des gens qui sont ici, qui ont souffert d'injustice, des choses qui sont arrivées qui sont tellement injustes. Souviens-toi de moi. Et bien sûr, au chapitre 40, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Et Joseph resta là pendant 2 ans. C'est à voir, 2 ans. Pendant 2 ans dans la prison. Pendant 2 ans dans la prison de l'injustice, il demeura là en prison. Mais l'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel lui donnait faveur. Et alors que les fers étaient à ses pieds, puis alors qu'il était là dans la prison de l'injustice, la parole de l'Éternel faisait son œuvre en lui. Et Joseph était amené en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ce qui nous amène... Juste en terminant ce matin, deuxième et dernier principe pour ce matin, afin de préparer le rêve de Dieu dans votre vie. Pas le temps de le prêcher ce matin, simplement lire le texte, simplement vous l'introduire, puis on va continuer dans le prochain message. Au chapitre 40, Joseph est dans la prison, c'est pendant ces 2 ans qu'il est là. Et il y a 2 hommes qui travaillent au palais du roi. Un est boulanger et l'autre, c'est le goûteur, qui ont déplu au roi, au pharaon, qui les a jetés en prison. Ils sont sous la garde de Joseph. Et lorsqu'ils arrivent, on les retrouve ensemble au verset 6. Et au verset 5, plutôt, au cours de la même nuit, les chansons et le panetier du roi étaient enfermés dans la prison. Ils firent tous les deux un rêve, chacun le sien, qui avait besoin d'une explication ou d'une direction. Verset 6. Joseph vint un matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna le chambellan les chambellans du pharaon en disant, qui était avec lui aux arrêts à la maison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous l'air si triste? » Et ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. Il n'y a personne pour nous aider, pour nous le faire comprendre. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Regardez-y un instant. Nous préparons le rêve de Dieu dans nos vies en poursuivant passionnément la promesse de Dieu, même lorsqu'il y a un silence du ciel, des injustices ou de la jalousie. Mais nous allons préparer aussi le rêve de Dieu lorsque je suis dans un moment de cellule ou de désert dans ma vie et que le rêve de Dieu semble tarder à s'accomplir et que je me préoccupe du rêve de quelqu'un d'autre. C'est assez saisissant la scène, là. C'est quelque chose. Joseph est l'homme le plus malheureux de la prison. C'est lui qui a subi la pire injustice. Il n'a rien fait pour être là. Il a été battu, il a été traumatisé par ses frères, jeté dans le puits, amené comme esclave dans la prison. Au moment où il est tenté, il fait la bonne chose, il fait les choses correctes devant Dieu. Ça se revire en calomnie contre lui. Il est jeté dans une prison. Et Joseph aurait été humainement, c'était comprenable qu'il soit juste dévoré par la fureur, par la révolte. C'est pas juste ce qui m'arrive. Il y a quelque chose en lui, il rencontre ces 2 hommes-là, et alors qu'il aurait pu être consumé par ses propres problèmes, il se préoccupe de leur visage qui est triste. Est-ce que ce qui ne va pas, les gars? Est-ce que je peux vous aider? Et les gars lui disent, watch this, les gars lui disent, ben notre problème, c'est que nous avons fait un rêve. Croyez-moi qu'il y a beaucoup d'entre nous, et soyez honnêtes pendant une seconde, slaquez votre cravate puis écoutez-moi pendant une seconde. Combien d'entre nous auraient dit, quoi, un rêve? Un rêve? Écoute bien, tu peux me parler de bien des affaires dans vie. Tu peux me parler de n'importe quoi. Parle-moi du Canadien, parle-moi de Samsonov, de l'opération AUE, parle-moi de n'importe quoi, mais je ne veux pas entendre parler de rêve. Je n'ai eu un rêve, moi. Crois-moi, je n'avais un rêve. Regarde où ce qui m'en est là. Parle-moi pas de rêve. Des rêves, j'en ai jusque-là. Je ne veux plus jamais entendre parler de rêve de ma vie. Est-ce que vous me suivez? Un rêve? Vous avez un rêve? Toi, t'as un rêve? Je suis sûr qu'il y a une hésitation lorsqu'il dit « Est-ce que je peux vous aider? Vous avez un mauvais visage. » C'est que nous avons eu un rêve, puis il n'y a personne pour nous aider. Je suis sûr qu'il y a une seconde, il dit « Hey! » Il y a quelque chose en lui qui dit, il hésite. Puis il dit « C'est Dieu qui accomplit les rêves. Racontez-moi votre rêve. Peut-être que je peux vous aider. Peut-être que je peux être utilisé de Dieu pour l'accomplissement de ton rêve quand j'attends le mien. » Dites à quelqu'un près de vous, c'est fort. Oh, c'est fort. Si personne d'autre est béni, moi, cette semaine, j'étudiais ça. Puis dans le salon, en bas, j'ai ma femme. Ouf, c'est fort, ça. Caroline, ouf, c'est fort. Faites à 100 000 être béni si vous ne l'êtes pas. Moi, je l'ai été cette semaine. C'est fort. Il y a un principe extrêmement important. Une des caractéristiques les plus laides, les plus destructrices et les plus mensongères, par exemple, de la dépression, c'est que les gens en viennent à voir juste eux-mêmes. Ils ne voient plus personne d'autre. Le rêve des autres ne les intéresse plus. Ils voient leur douleur, leur peine, ce qui me manque, ce qui m'est arrivé, ce qu'on m'a fait. Personne ne me comprend, personne ne sait, personne ne peut savoir. Mon rêve, mes affaires, ce que je n'ai pas eu. Très souvent, très insensibles au mal qu'ils font aux autres, au rêve des autres qui piétinent autour d'eux. Et souvent, c'est dans une perspective totalement égocentrique qu'ils essaient de se sortir de leurs difficultés, alors qu'il y a une clé éternelle. La parole de Dieu dans le livre aux Galates, en Corinthiens, dans Galates, et aussi dans les paroles de Jésus, il est écrit dans l'apôtre Paul dira, « Ceux qui recherchent la chair, ceux qui recherchent le soi, ceux qui sont à la poursuite du soi, vont toujours se détruire. Mais ceux qui recherchent l'esprit, ceux qui recherchent la vie que Dieu a pour eux, vont trouver leur épanouissement. » Jésus le dit littéralement de cette façon, « Si tu essaies de sauver ta vie, puis tu es obsédé par ta vie à toi, tu vas la perdre. Puis si tu te donnes à la vie des autres, tu vas trouver la vie abondante. Je veux dire à chaque personne ici qu'une des façons les plus extraordinaires et puissantes que tu prépares le rêve de Dieu, c'est de commencer à t'intéresser au rêve de quelqu'un d'autre. Regarde à tes enfants autour de toi, regarde à ta famille, regarde à ta femme, regarde à ton mari, regarde à quelqu'un que tu peux aider, regarde à une vision que tu peux contribuer. Sors de toi-même et va contribuer. Et Joseph, c'est fascinant, va être aidé, va être utilisé de Dieu pour aider ces hommes-là dans la compréhension de leurs rêves à eux. Et lui ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais je veux dire même ceci à tous les jeunes ouvriers qui sont ici, ceux qui veulent servir le Seigneur et ceux qui veulent accomplir la vision de Dieu, ont des grands rêves de ministère. Dieu ne vous confiera jamais votre propre règne tant que vous n'aurez pas été fidèle dans l'accomplissement du rêve de quelqu'un d'autre. Tant que tu n'auras pas été quelqu'un qui dit « Moi, j'en ai un rêve, mais je me donne, je sors de moi-même, je poursuis la fidélité de Dieu, je poursuis la promesse, même lorsqu'il y a d'injustice, même lorsqu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais je vais me donner au rêve de quelqu'un d'autre. » Il y a quelque chose qui est arrivé à Joseph. Pendant que ça se passait, c'était l'œuvre de Dieu. Je termine avec ceci, j'invite Olivier à s'approcher. Il va terminer avec un chant. Suivez-moi bien, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui se passait en lui. La parole de l'Éternel faisait une œuvre en lui. Je crois que Joseph est en train de changer. Je crois que Dieu permettait beaucoup de choses. Que même lorsqu'il a dit, à celui qui quittait le palais, hey, oublie-moi pas, ok, hey, écoute-moi, oublie-moi pas, mais que tu sortes, là, j'ai rien fait pour être ici, oublie-moi pas. Et que l'homme l'a oublié. Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu est en train de libérer Joseph de sa dépendance des gens et des personnes. On a besoin les uns des autres. On va se confier dans les gens. On va avoir de l'aide des gens. Mais ma source ultime est en Dieu. Les gens peuvent me décevoir, mais Dieu ne me décevra jamais. Quelqu'un devrait dire amen. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver à Joseph, puis que Dieu le préparait. Lui, son appel, c'était pour devenir un homme qui était pour nourrir une nation. Avoir une compassion pour les pauvres, pour les oublier, parce que dans l'Égypte de l'époque comme aujourd'hui, même lorsque ça va très mal et que c'est la famine, c'est toujours les pauvres et ceux qui sont en bas qui souffrent, puis il y a toujours ceux qui sont en haut qui se préservent et qui se gardent. Puis Joseph était appelé à devenir quelqu'un qui était pour être le sauveur et quelqu'un, le rêve de Dieu pour lui, c'était quelqu'un qui était pour devenir le meilleur ami de ceux qui souffrent, des pauvres, des oubliés, des méprisés. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Le rêveur avec son manteau brillant qui se promenait en disant « Prosternez-vous devant moi je vais être haut, vous autres, vous allez être bas », est en train de changer. Parce que même dans la prison, alors qu'il est lui-même rongé par toutes sortes de doutes et de douleurs, il y a une sensibilité qui grandit en lui, qui est capable de regarder et de dire « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas, toi, ton visage est triste. » Tu es capable d'être ému de compassion pour quelqu'un d'autre, alors que le rêve de Dieu ne semblait pas s'accomplir en lui. Dieu a pris Joseph. Je termine avec ceci et Olivier va chanter un chant magnifique. Juste terminer avec ces quelques mots que j'ai écrits cette semaine. Joseph, le rêveur au manteau brillant, a côtoyé les plus pauvres, les oubliés et les méprisés. Il se retrouve dans la cellule de l'injustice et de la pauvreté. Il a vécu avec les plus démunis, où il développera une sensibilité et une compassion envers ceux qui souffrent. Il est devenu l'un d'eux. Et Dieu le préparait à devenir celui qui les nourrirait et combattrait pour eux plus tard dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Je vais vous demander de faire quelque chose. Olivier est inspiré par le Saint-Esprit d'écrire un chant magnifique qui dit « Persévère, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, chéris-le comme un trésor. » Et pendant qu'il va le chanter, j'aimerais vous demander simplement de baisser la tête et parler un instant. Et par la suite, vers la fin, on va se lever ensemble, on va chanter avec lui. Mais ce matin, est-ce que vous pouvez juste dire « Seigneur, je veux m'abandonner à ton œuvre, à toi dans ma vie. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur Dieu, je veux te permettre de préparer ton rêve en moi. Je veux sortir de moi-même. Je veux poursuivre ta promesse, même lorsqu'il y a un silence du ciel ou une injustice. Et Seigneur, je veux me préoccuper, rends-moi capable de sortir de moi-même et de me préoccuper des autres et préoccuper du rêve des autres et être un outil dans tes mains pour les autres. » Quand je suis moi-même dans l'attente de mon rêve et de comprendre que donc même lorsque je crois qu'il n'y a plus rien qui me dirige vers le rêve, tu es à l'œuvre en moi et tu es en train de produire un acier dans mon âme. Tu es en train de faire de moi un homme ou une femme de Dieu. J'entends ta voix ce matin, Seigneur, qui me dit, persévère.
Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un présent. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, oh oui. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère.
Levons-nous ensemble, chantons-nous ensemble, chorale.
Persévère.
Levez votre voix, vos mains vers Dieu. Voici ce que je vais faire, Seigneur. Applaudissez la fidélité de Dieu. Applaudissez la fidélité de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. J'appelle tous les Joseph qui sont dans ce lieu à attendre. Ce n'est pas un geste rituel ou extérieur. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Si vous voulez bien, je vous invite à tendre vos bras vers celui qui vous aime et dire, Seigneur, je vais mettre ma vie dans tes mains. Seigneur, j'accepte ta préparation en moi. J'ai été victime d'injustice. Il y a des choses qui prennent place, qui sont incompréhensibles.
qui ont épelé le mot impossible. Je déclare que tu es avec moi, Seigneur, même dans la prison. Je déclare que personne d'autre que toi qui peut déterminer les limites de ma vie, ce que je vais accomplir, ce que je vais réaliser, comment je vais guérir, comment je vais, ce que ma famille va être, ce que mes enfants vont être, ce que mon futur va être, Seigneur. Personne d'autre que toi ne peut le déterminer. Et tu es le Dieu de tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Et Seigneur, les difficultés sont bien visibles. Et les destinées peuvent paraître invisibles, mais ma confiance est en toi. Et je te prie par ton Saint-Esprit, sors-moi de moi-même. Permets-moi de m'intéresser, permets-moi de me préoccuper et permets-moi de devenir un participant aux rêves de d'autres personnes. Ce que tu as mis autour de moi, Seigneur, en l'attente du futur, en ce moment, il y a quelque chose que je peux faire. Il y a des choses que je peux toucher, il y a des gens que je peux aider, il y a des gens que je peux aimer. Je peux contribuer aux rêves de Dieu dans la vie des gens autour de moi. Et ce matin, je déclare ta fidélité plus grande. J'accepte ta préparation dans mon âme. Mon nom est Joseph. Et je m'abandonne à toi, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ont prononcé des paroles de mort ou des paroles qui m'ont déchiré, je les relâche ce matin. Je les bénis ce matin, Seigneur Dieu. Je les mets entre tes mains. Je les bénis, Éternel. Je te prie ta bénédiction sur eux. Libère mon cœur de toute la peine, de la déception, de quoi que ce soit que j'ai pu ressentir. Je veux mon cœur clair devant toi. Mais moi et ma maison, nous allons poursuivre le rêve de Dieu. Nous allons poursuivre le rêve de Dieu. Et nous allons recevoir une préparation. Et Seigneur, alors que je traverse cette situation, je réalise, alors que des fers ont été mis à mes pieds, que des choses ont été mises autour de moi, qu'il y a une œuvre qui se fait en moi. Seigneur, tu me prépares. Tu fais ton œuvre en moi pour que je sois un homme ou une femme de Dieu. Ta fidélité est grande, mon Dieu. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oh, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande.
Ta fidélité est grande. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.